On commence notre étude dans Ruth. On est dans le chapitre 4 du livre de Ruth. On avait vu la semaine passée que Boaz y avait interpellé celui qui était le plus proche parent. Puis on avait vu comment Boaz avait beaucoup plus d'informations sur la situation de Ruth que le proche parent qui ne s'était pas nécessairement intéressé, même si toute la ville avait été émue quand Naomi est arrivée avec sa belle-fille Ruth. Mais Boaz, il lui donne les informations, mais lui, il se désiste. Il dit qu'il ne peut pas racheter en prenant Ruth comme femme parce qu'il avait peur de détruire son héritage. Puis là, on va voir maintenant que c'est Boaz qui va prendre, il va prendre Ruth comme femme, puis il va tout racheter ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon, puis à Maclon. C'est qu'on va lire à partir du verset, on était rendu au verset 7, mais peut-être qu'on va lire le verset 6 pour le contexte. On dit au verset 6 de Ruth 4, il nous dit ici, et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérès qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérets. Pérets engendra Hetsron, Hetsron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole. On va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois de nous avoir rassemblés ici ce soir sur Zoom. On te remercie pour ce temps qu'on peut passer dans ta parole. On te demande, notre Dieu, que ça puisse être favorable, ça puisse être utile pour nous, Seigneur, de te connaître et de connaître la façon de te servir, puis qu'on peut voir tes grâces envers nous, Seigneur. C'est tellement merveilleux comment tu bénis ceux qui se tournent vers toi, Seigneur, puis qui demandent ta bénédiction. On t'en rend grâce, on te remercie pour le salut merveilleux que tu nous as pourvu, nous qui ne méritions rien, mais par ta grâce, tu nous as pourvu un si grand salut. Merci encore une fois, notre Dieu, et bénis-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, donc on va continuer ici au verset 7. Il dit, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage. Donc ici, c'est la question du soulier. La question du soulier, c'est en rapport avec la prise de possession. On voit dans Josué 1,3 qui disait, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc Dieu faisait la promesse de donner la possession à celui qui marchait qui mettait son pied sur le terrain. Ici, c'était pour le pays de Canaan que Dieu leur donnait. Puis il leur disait, il fallait avancer dans le pays, il fallait prendre possession du pays en marchant. Puis c'est peut-être en raison de ça que celui qui prenait possession, celui qui rachetait, bien, il fallait qu'il prenne, qu'il marche ou qu'il avance dans la foi. Mais lui, en reculant, il enlève son soulier, puis il le donne à Boaz. Mais marcher, quand le Seigneur nous fait les promesses de marcher, c'est pas de l'arrogance, c'est de l'audace. On appelle ça l'audace de la foi. L'audace de la foi, c'est de s'emparer des promesses de l'Éternel, des promesses du Seigneur, puis d'avancer. C'est de la même façon que David, quand il s'est avancé devant Goliath. David, parce qu'il avait insulté le Dieu d'Israël, eh bien, David a marché, il est allé vers Goliath pour l'affronter. Puis nous aussi, on doit affronter les défis que le Seigneur met devant nous. C'est sûr que parfois, c'est épeurant, parce qu'on sait très bien que nous, on ne serait pas capable. Mais si le Seigneur nous dit d'avancer, par la foi, on avance, puis on s'empare de ce que le Seigneur nous donne. Quand Israël a traversé le Jourdain, il nous a dit que les sacrificateurs, il fallait qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau quand ils arrivaient au bord du Jourdain. Puis quand ils allaient mettre leurs pieds dans l'eau, c'est là, à ce moment-là, que les eaux se sont séparées, les eaux du Jourdain se sont séparées. On voit ça dans Josué au chapitre 3. Dans Josué au chapitre 3, les versets 13 à 17. Et ici, il est dit. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Donc, c'est un acte de foi. Le Jourdain n'était pas encore séparé, il n'était pas encore ouvert, mais il fallait qu'il mette les pieds dans l'eau. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme, encore le pied, sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Donc, il y a toujours la question d'avancer. Puis, on voit ça aussi dans l'Épître aux Éphésiens. Après avoir parlé des bénédictions spirituelles dans les trois premiers chapitres, eh bien, ensuite de ça, il y a cinq commandements de marcher ou de ne pas marcher ou de marcher pour comment s'emparer des bénédictions qui sont mentionnées dans le début de l'Épître. Mais on voit la loi en rapport avec cette action de cet homme-là qui enlève son soulier, qui le donne à Boaz. On voit ça dans Deutéronome au chapitre 25. Verset 5, on avait lu déjà, il dit, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Puis là, il dit, si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère et il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Donc, c'est ça qu'on voit ici, qui lui, il enlève son soulier, puis il le donne à Boaz parce qu'il ne veut pas racheter. Il dit que ça, de peur de détruire son héritage. Fait qu'il ôte lui-même son soulier. Mais ensuite de ça, on voit que dans le verset 8, il dit, celui qui avait le droit de rachat, dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Mais Ça amène Boaz maintenant qui va faire sa déclaration publiquement. C'est pour ça qu'il est à la porte avec les anciens, puis aussi les 10 hommes qui sont témoins. Puis là, Boaz va faire sa déclaration. Il dit au verset 9, Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Donc, il prend possession, mais il fait une déclaration publique. Puis il prend la possession de l'héritage de Naomi. Parce que Naomi, c'est celle qui était restée, le seul lien qui était resté avec la possession de la terre, parce que de l'héritage d'Élimélec. Puis, comme on avait dit déjà, ben, la femme représente la relation qui ne peut pas se perdre, tandis que l'homme représente la communion qui, elle, peut se perdre. Donc, les hommes étaient morts, mais Naomi demeurait la seule qui était en lien avec l'héritage. Puis c'est comme il dit ici que il avait j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Maclon. Donc le verset 9, c'est en rapport avec la propriété, mais le verset 10 est en rapport avec Ruth. On avait fait aussi cette distinction-là auparavant. Il y avait le rachat de la propriété de la terre. Mais avec ça aussi, il y avait le rachat de la personne, c'est-à-dire de la femme du défunt, qui était Ruth, la Moabite. Puis là, ici, le nom du défunt va être relevé, parce que quand l'enfant de leur union va naître comme une grâce de l'Éternel, parce qu'on voit que dans le verset, attendez un petit peu, dans le verset 13, il dit Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle et l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Donc, leur mariage, le mariage est un contrat sérieux. Même aujourd'hui, là c'est le mariage de Boaz avec Ruth. Il s'est acquis Ruth comme pour sa femme. Puis un mariage, c'est quelque chose de sérieux. On sait aujourd'hui que beaucoup ne prennent pas au sérieux le mariage. Mais c'est une institution divine pour unir un homme et une femme avec un contrat dans les liens du mariage. C'est pour ça que c'est devant Dieu et devant les hommes. C'est sûr que Dieu est toujours là, mais les hommes sont présents ici. Les anciens de la ville, il y a les voisines aussi, il y a les femmes, il y a les 10 témoins. Puis Boaz s'engage publiquement, il fait une déclaration publique. Mais on voit que dans sa déclaration, il dit, Vous êtes témoin. C'est un engagement qu'il prend. Il s'étend publiquement, il a pris Ruth, la Moabite, pour sa femme. Mais au verset 11-12, on voit ici que la réponse de tout le peuple est favorable. Lui, il fait sa déclaration que vous êtes témoin de cela, puis eux, ils partagent ici leur approbation. Les versets 11 et 12, il dit, Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, Nous en sommes témoins. Donc, ils reconnaissent qu'ils sont témoins, que l'Éternel, puis là, ils donnent leur bénédiction. En donnant leur bénédiction, ils démontrent leur approbation de la transaction, sont vraiment en faveur de cette transaction-là. Il dit, Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérès qui fut enfantée à Juda par Tamar. Donc, on a la réponse favorable de tout le peuple, les anciens qui sont là à la porte pour témoigner de ces choses-là. On voit aussi que la part des femmes, on voit la bénédiction aussi. Mais quand un mariage reçoit la bénédiction de l'entourage, c'est toujours un bon signe. Des fois, il y a des mariages y a pas, ça peut arriver que l'entourage se trompe, mais quand la famille, les témoins, ceux qui sont là, sont en faveur d'un mariage, ben, c'est sûr que ça commence bien. C'est un bon signe. Puis, on va voir qu'il va y avoir trois témoignages favorables envers cette transaction-là. Puis aussi, ben, il y a la bénédiction de l'Éternel, parce que l'Éternel a permis à Ruth de concevoir, puis elle a enfanté un enfant. Donc, on a aussi l'approbation de l'Éternel dans cette transaction-là, dans ce mariage-là. Fait que, donc, les trois témoignages, on a premièrement le peuple et les anciens qui étaient à la porte. Ils montrent leur approbation avec un souhait, hein, comme ils disent ici, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa. Donc, ce souhait sont en rapport avec la postérité, parce que là, c'est en prenant Ruth, il va susciter une postérité. Donc, puis, il se réfère aussi à Rachel et Léa. Rachel et Léa, c'est les épouses de Jacob qui, à toutes les deux, avec leurs servantes, chacun leur servante, ils ont bâti la maison d'Israël. C'est eux autres qui ont emmené toutes les 12 fils d'Israël pour continuer la famille, parce qu'on sait qu'elle est jusque Abraham, il y a eu un fils, puis après ça, Isaac, ben, il y a eu deux fils, mais il y en a un qui était choisi. Puis là, maintenant, ben, à partir d'Israël, c'est là que ça se multiplie, là. Là, il y a 12 fils qui vont naître. Puis c'est Rachel et Léa. Mais c'est intéressant comment la parole de Dieu nous démontre ici le rôle de la femme ici, comment c'est eux qui ont bâti la maison d'Israël. Le Seigneur attribue à Rachel et Léa le fait qu'ils ont construit toutes les deux de la maison d'Israël. Puis, en donnant l'approbation à ces souhaits-là à Boaz, ben, ils ont en vue aussi la famille, la continuité de la famille. Puis ça, c'est dans le rapport avec la tribu de Juda, qui est un des 12 fils d'Israël. Mais après ça, vient la postérité. Parce qu'il dit, la postérité que lui donnera Ruth rend sa maison comme celle de Pérez. Quand ils parlent envers la postérité, ils font ce souhait-là qui est dit, comme puisse la postérité, au verset 12, que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rend ta maison semblable à la maison de Pérez, qui lui fut enfantée à Juda par Tamar. Donc ça, c'est la lignée de Juda qui était en danger. On sait que quand on avait parlé de ça aussi, Juda, ben, il s'était éloigné de ses frères, puis ses fils. Er qui s'est marié avec Tamar, mais il est mort parce qu'il était méchant devant l'Éternel. L'Éternel l'a fait mourir, puis il n'y avait pas d'enfant. Fait que Onan est allé pour prendre la femme de son frère, mais il ne voulait pas susciter une postérité à son frère. Donc l'Éternel l'a fait mourir aussi. Puis là, il y avait Shéla. Shéla, ben, Jacob craignait de lui donner pour mari. Puis elle, ben, elle a manigancé pour que Juda la mette enceinte, puis elle a eu Pérez, puis Uzza aussi. Mais c'est Pérez qui est la lignée, c'est lui qui a été la lignée pour emmener ce qu'on va voir, le roi David. Mais Juda, lui, il s'était éloigné de ses frères, comme Élimélec aussi s'était éloigné de ses frères. Il est parti de Bethléem Juda pour aller au pays de Moab. Mais la grâce de Dieu est intervenue pour que la lignée se continue. Ça, c'est important. Puis comme ici, avec cet enfant, Obed, qui vient par la grâce de l'Éternel. C'est vraiment la grâce de l'Éternel que ce fils-là est né. Mais ensuite de ça, il y avait envers l'héritage, ils ont dit dans le verset 11, « Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. » On sait que Boaz, comme il nous a été présenté au chapitre 2, ben Boaz était un homme puissant et riche. Donc déjà, il avait quand même une certaine gloire. C'était un homme il avait une puissance, puis il était riche. Un homme qui avait un nom dans Bethléem, Juda, dans Éphrata. Il était déjà puissant et riche, comme on a vu au chapitre 2, verset 1. Mais il s'acquiert une gloire supérieure en rachetant. Donc il était déjà glorieux, mais puis ça nous fait penser au Seigneur Jésus aussi. Le Seigneur Jésus était déjà glorieux. Il avait sa gloire, il a laissé sa gloire, il est descendu sur la terre. Puis, mais il a une gloire d'autant supérieure maintenant qu'il a accompli le rachat, qu'il nous a rachetés. Donc, le Seigneur Jésus, si on va dans l'Apocalypse au chapitre 5, puis il n'est pas juste dans cet endroit-là, mais c'est un des endroits qui nous montre que le Seigneur Jésus s'est acquis une gloire de plus excellente encore en effectuant ce rachat-là, quand il nous a rachetés. Dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, les versets 6 à 14, il dit, Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardai, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et vous, comment Seigneur Jésus s'est acquis une gloire d'autant supérieure. On voit aussi dans Hébreux au chapitre 2, Hébreux au chapitre 2, puis le verset 6 à 9. C'est sûr que quand on va penser dans l'éternité à l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie, ben, ça va être le sujet d'adoration pour toute l'éternité, parce qu'on n'aurait pas été là si ça n'avait pas été de son œuvre de rachat qu'il a accomplie pour nous. Dans Hébreux au chapitre 2, versets 6 à 9, il dit: Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Donc, on voit qu'il s'est acquis une gloire d'autant supérieure, mais qu'il était déjà glorieux, mais dans son œuvre de rédemption, il a acquis une gloire encore supérieure. Puis eux, ils lui disent, manifeste ta force dans Éphrata. Puis Éphrata, ben, ça veut dire fructueux. C'est ça, puis il va être fructueux, mais on voit tout de suite avec l'enfant qui va naître. Mais ensuite, le deuxième témoignage qu'on voit, c'est les femmes qui s'adressent à Naomi. Puis ils disent ici, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Donc les femmes ici, ils se réjouissent avec Naomi dans sa situation. C'est quand Naomi est arrivée, elle avait dit, ne m'appelez plus Naomi comme mon délice, mais appelez-moi Mara, parce qu'elle était, elle dit, l'Éternel m'a rempli d'amertume. Mais maintenant, ils voient le déroulement de la situation. Puis ils se réjouissent de la situation de Naomi. Comment le Seigneur a été gracieux. Elle s'est réfugiée dans le Seigneur, puis le Seigneur l'a bénie abondamment. Donc, c'est une grande joie de voir quelqu'un de sauvé. Quand quelqu'un est nouveau, converti, ça nous donne une grande joie, parce que le Seigneur a dit, il y a plus de joie dans la présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Fait que quand on a notre cœur dans le ciel, ben on se réjouit aussi pour le salut d'une personne. Mais c'est une grande joie aussi de voir quelqu'un être restauré. Quand quelqu'un s'est éloigné, puis qu'il revient, puis le Seigneur le restaure, puis il le bénit, c'est un sujet de grande joie aussi. C'est merveilleux de voir ça. Puis eux, ces femmes-là, ils sont témoins de la grâce de Dieu qui s'est manifestée envers Naomi. Puis ils sont contents de ça. Il dit, son nom sera célébré en Israël. Puis, on connaît l'importance de David en Israël, parce que David va être le descendant de cette union-là. Puis combien le roi David, pour la nation d'Israël, puis même C'était un roi qui était victorieux, qui avait un roi qui était puissant. C'est un roi, quand on parle de David, c'est quelqu'un qui est très connu. Puis c'est en rapport avec ça, ils avaient dit, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Donc cet enfant restaure son âme, sa vie, parce que qui semblait perdue, parce qu'on avait vu dans le chapitre 1, verset 12, qu'elle avait dit, même si cette nuit j'avais un mari, puis que attendriez-vous pour que j'aurais des fils de ce mari-là, mais c'était comme impossible pour Naomi, parce qu'elle n'avait même pas de mari à ce moment-là. Mais le Seigneur, ça semblait perdu, puis le Seigneur a réparé, il a relevé la postérité. Puis il dit, il sera le soutien de sa vieillesse. Un peu comme Siméon. Quand Siméon, dans Luc au chapitre 2, quand Siméon, qui était un homme âgé, qui était au temple, quand ils sont venus présenter le Seigneur Jésus, ben lui, il a pris le Seigneur Jésus dans ses mains, puis il a dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est un peu comme pour Naomi, elle peut dire maintenant, là maintenant, je peux partir en paix parce que la postérité va continuer. La postérité de son mari, de ses fils, qui allait continuer dans ce fils-là qui était né de la relation de Boaz avec Ruth. Puis elle dit, ils disent, elle, ta belle-fille qui l'a enfantée, elle qui vaut mieux que sept fils. Imaginez-vous que si elle avait eu sept fils, Naomi, sa postérité n'aurait pas été en danger. Avec sept fils, ça aurait été quand même bien assuré. Mais là, dans la fragilité de la situation, ben c'est sa belle-fille, Ruth, qui l'a enfantée, cette postérité-là maintenant, il va continuer la postérité. Mais Ruth, qui aime sa belle-mère, elle vaut mieux que sept fils, parce que le Seigneur l'a utilisée pour donner une postérité assurée, parce que maintenant la postérité est assurée. Ensuite de ça, on a le témoignage des voisines. C'est les voisines qui donnent le nom à Obed. Il nous dit, les voisines, au verset 17, lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Donc c'est eux qui vont nommer cet enfant-là qui est né de Boaz et de Ruth. Puis ça témoigne de leur réjouissance. Ils se réjouissent. Sont contents, puis ils donnent un nom, puis le nom d'Obed veut dire serviteur adorateur. Serviteur adorateur. Puis j'ai regardé un peu la signification du nom en Ancestry, puis ça dit, le nom Obed trouve ses racines dans la langue hébraïque. Ah oui, c'est ça, on est dans l'hébreu. Il dit, où il est traduit par serviteur ou adorateur. Ce sens reflète un profond sentiment de dévotion et de service souvent associé à des contextes religieux ou spirituels. Voyez-vous le rôle que cet enfant-là va accomplir. Il dit, ce nom peut signifier le rôle d'un individu en tant que celui qui sert un but ou une autorité supérieure, mettant en avant des qualités d'humilité et de dévouement. C'est pour ça qu'il l'appelle Obed, là. Et Obed est souvent considéré comme un de force véhiculant un engagement profond envers la foi et la communauté. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé le fils Obed, parce que ça allait être un serviteur qui est dévoué dans l'adoration, parce que c'est son motif. Donc, la ville était ému à la venue de Naomi et Ruth. Ça a créé tout un émoi dans la ville quand ils ont vu arriver Naomi. Mais si cet événement fut une grande bénédiction pour Naomi et Ruth, c'est sûr qu'ils sont venus se réfugier dans la présence, dans le Dieu d'Israël, puis ils ont connu une grande bénédiction. Mais aussi, c'était une grande bénédiction pour Bethléem Juda. On avait vu que Naomi avait entendu parler que l'Éternel avait visité son peuple. Mais quand elle est arrivée, ça a fait partie de la bénédiction de l'Éternel. Puis Bethléem, Juda ont connu, ils ont vécu cette histoire-là. Nous, on la lit dans le livre de Ruth ici, là, des 1000 ans après. Mais eux, ils l'ont vécu. Ils ont vécu cette situation-là. Ça fait qu'ils sont dans la joie, ils sont dans la réjouissance. C'était une grande bénédiction pour Bethléem Juda. Vous savez, des fois, parfois, dans des assemblées, on peut être à un point qu'on demande au Seigneur d'amener une bénédiction. Puis on a besoin de voir la bénédiction de l'Éternel, du Seigneur parmi nous. Puis des fois, il peut arriver un temps où il n'y a rien qui se passe, puis on peut prier pour qu'il arrive une situation. Puis ça peut être une situation comme celle-ci, là, que le Seigneur apporte quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui est sauvé, puis ça va accomplir. Tout le corps s'est mis en mouvement quand Naomi et Ruth sont arrivés, là. Ils ont observé, puis ils ont pu vivre cette expérience-là avec elle. Puis ça réveille tout le monde. Tout le monde se réveille, puis tout le monde sont dans la joie, parce que c'est sûr que quand il se passe rien, on vient à morph, on vient qu'on a plus l'énergie pour faire des grandes choses. Mais quand le Seigneur commence à agir, ben là, on se réjouit, puis ça donne un entrain pour qu'on puisse accomplir des grandes choses. Quand on est arrivé, nous autres, en Alberta, moi, je venais juste d'être sauvé, ça faisait même pas un an que j'étais sauvé. Puis on est arrivé en Alberta. Puis, on se demandait comment ça se fait. Ils nous traitaient comme si on était une grande bénédiction pour eux autres. Mais nous autres, on trouvait que c'était bien plus eux autres qui étaient une bénédiction pour nous autres, parce qu'ils se sont tous mis en marche pour prendre soin de nous. Puis, on était les cinq frères qui arrivaient, puis avec des enfants, puis avec nos femmes, puis des enfants. Puis, eux, ils nous traitaient comme si on était une grande bénédiction, mais eux avaient prié. Puis il avait prié beaucoup pour le Québec. Il s'intéressait beaucoup au Québec, même qu'un des anciens, là, il avait voulu venir au Québec comme missionnaire, mais le Seigneur n'avait pas dirigé. Mais là, le Québec arrivait en Alberta. Ça fait que, et puis il participait, puis quand mes frères ont tous été sauvés, maintenant on regarde ça, puis on dit, ah ben c'est sûr que c'était une grande bénédiction. Puis nous autres, on a toujours gardé un bon souvenir de ce moment-là. Qu'on a passé là-bas. C'était une grande bénédiction. Mais eux, ils priaient pour le Québec, puis là, le Québec arrive, puis ils ont pu évangéliser, en fait. Il y a eu 9 conversions pour cette assemblée-là. Mais ils ont travaillé aussi, ils ont embarqué dans le mouvement, puis ils ont pris soin, puis il y en avait différents qui prenaient soin des différentes personnes. Fait que c'était vraiment quelque chose de grand, puis c'est la même chose dans Bethléem Juda, là. Le fait que Naomi est revenue avec Ruth, puis ils ont vécu cette expérience-là avec elle, ça a été une grande bénédiction. Le Seigneur avait visité son peuple. Ça, c'est merveilleux. Mais au verset 13, on voit que Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Donc, Boaz ayant épousé Ruth, il vint vers elle, mais c'est l'Éternel qui donne le fruit. C'est l'Éternel qui donne le fruit. Il permet à Ruth, la Moabite, qui était une étrangère, il permet à Ruth de concevoir puis d'enfanter un fils. Bon, on sait comment aussi la naissance du Seigneur Jésus est arrivée. Marie, qui était vierge, qui ne connaissait pas d'homme, puis miraculeusement, le Saint-Esprit a conçu dans son sein cette sainte chose qui, ça c'est la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il était impeccable. Et parce qu'il était conçu du Saint-Esprit. Mais ici, l'Éternel, il permet à Ruth de concevoir, puis le Seigneur lui donne la postérité ici, là. Mais c'est l'Éternel qui accomplit son plan. Mais il l'accomplit en utilisant des personnes dans leurs circonstances. Puis des fois, on se dit, ouais, mais moi, comment est-ce que le Seigneur peut m'utiliser? Mais le Seigneur, il peut utiliser qui il veut. Dans n'importe quelle circonstance, en dépit de nos manquements, en dépit de nos faiblesses, Ruth, c'était une étrangère, elle était appelée souvent Ruth la Moabite, mais là maintenant, elle est la femme de Boaz. Puis le Seigneur lui permet de concevoir, puis d'enfanter un fils à Boaz. Puis ça fait la réjouissance de tout le peuple ici, là. Ils sont vraiment contents. Mais on voit, Boaz, il a pris Ruth, mais Naomi, elle chérit cet enfant-là, là. Au verset 16, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Imaginez-vous la joie de Naomi maintenant de voir cet enfant-là, quelque chose qu'elle n'aurait pas pu s'imaginer, mais elle chérit cet enfant parce que c'est la réponse, c'est ou la récompense de son retour vers l'Éternel. Du fait qu'elle a pris cette décision-là dans le pays de Moab de revenir Bien, c'est à partir de là que elle a pu jouir de cette grande récompense que le Seigneur lui donne ici, un enfant qui va continuer la postérité. Et comment précieux peut être cet enfant-là pour Naomi ici. Puis, après ça, le livre se termine par une généalogie très importante pour la survie du peuple d'Israël. Puis, ici, il commence à nous donner, il dit, ils appelèrent Obed au verset 17, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Puis là, il dit, parce que David, c'était le grand-père de David ici, Obed. Puis là, il nous donne une postérité, c'est la postérité de Pérets. Pérets engendrait Hezron, Hezron engendrait Ram. Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. C'est-à-dire qu'à partir du roi David, ça nous mène au roi David. Le roi David qui a amené une grande gloire sur Israël, qui s'est manifesté à son fils Salomon. David était un guerrier qui a conquéri. Il a détruit les ennemis du royaume pour que Salomon puisse entrer dans un règne de paix, comme le Seigneur Jésus va rentrer un jour dans son règne millénaire. Ça va être un règne glorieux après avoir, il dit, il s'est assis à sa droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc le Seigneur va avoir la victoire sur tous ses ennemis, il va rentrer dans ce règne glorieux-là, le règne millénaire de 1000 ans. Il va régner sur Israël, puis sur les nations aussi. Si on regarde les noms de ces gens-là, le nom de Pérets, il veut dire une brèche, parce qu'il avait fait une brèche, parce que son frère avait présenté la main avant, puis ils ont mis un cordon, puis il a retiré sa main, puis Pérets est sorti comme premier. Mais c'est l'autre qui était pour sortir premier. Donc, il avait fait une brèche, et c'est sûr que c'est une brèche aussi dans la postérité du Messie. Mais après ça, lui a enfanté Hetzron. Hetzron, ça veut dire que c'est une cour entourée d'une clôture. Donc, c'est quelque chose de protégé. Un village entouré d'un mur. C'est ça que ça veut dire le nom Hetzron. Puis, après ça, c'est Ram. Ram, lui, ça veut dire haut, s'élever, s'exalter. Voyez-vous, là, à partir de presque la race ou la postérité, la lignée s'éteigne. Mais ça est revenu là, en force par une brèche. Puis là, Ram, ça veut dire haut, s'élever, s'exalter. Puis Aminadab, ça veut dire peuple de la libéralité. Ça devient en bénédiction. Puis Nachon, ça veut dire enchanteur. Ça veut dire enchanteur. Salmon, ça veut dire vêtement. C'est-à-dire que maintenant, c'est une progression là, dans le bon sens. On parle des vêtements de salut. Boaz, ben, c'est en lui est la force. Puis après ça, Obed, ben c'est serviteur, adorateur, c'est un serviteur dévoué. Puis Jesse, ça veut dire se démarquer. C'est ça qui avait été le souhait des témoins puis des anciens. Ça avait été qu'ils puissent se démarquer. Mais là, avec Jesse, il se démarquait. Puis David, ça veut dire aimant. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Puis ça veut dire aimant. Donc, la préservation du peuple choisi de Dieu dans sa faiblesse, mais sous la protection de l'Éternel. Ça, c'est l'histoire d'Israël. Le Seigneur avait dit qu'il n'avait pas choisi Israël parce que c'était un grand peuple. C'est vraiment pour manifester la grâce de l'Éternel. C'est ça qui était le but de choisir Israël. C'est pour manifester la puissance de Dieu, comment il les a préservés, comment, puis un jour, il va vraiment les élever, puis il va leur donner une grande gloire. Puis, mais c'est la postérité d'Israël, le peuple qui vient d'Abraham, c'est quelque chose qui, même, ça a devenu connu. Parce que si on regarde dans Esther au chapitre 6, Esther au chapitre 6, on voit que une situation ici avec quelqu'un qui voulait détruire le peuple de Dieu. C'est quelqu'un qui avait Haman voulait détruire le peuple de Dieu. Puis on sait que les événements ont tourné contre lui assez rapidement parce que lui avait même fait un gibet dans sa maison pour pendre Haman, puis Mardoché, c'est-à-dire, excusez, qui était un juif. Puis il revient, il pensait qu'il allait être honoré, mais finalement, c'est lui qui a dû honorer Mardoché. Fait que là, les choses commençaient à virer contre lui. Puis dans Esther, au chapitre 6, au verset 13, elle dit, et ces sages, les sages de Haman et sa femme Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Puis à partir de ce moment-là, c'est vraiment ce qui est arrivé. Les choses se sont détériorées très rapidement pour Haman. Puis c'est lui qui s'est ramassé pendu sur le gibet qu'il avait préparé pour Mardoché. Donc, puis, vous savez, c'est encore aujourd'hui, on voit là que Israël, ils ont passé, là, ça fait 2000 ans presque, qui sont en captivité, qui ont été éparpillés sur toute la terre. Puis on pourrait penser que c'est fini pour eux autres, même qu'il semblerait qu'il y a 10 tribus qui sont perdues. Mais le Seigneur, dans sa puissance, il va les ramener. Il a fait des promesses, puis il ne s'en repentira pas. Il va faire en sorte qu'il va ramener Israël. Puis ça, c'est quelque chose que même des chrétiens, il y a des chrétiens qui ne croient pas au futur d'Israël. Mais, veux pas, s'il y a encore Israël aujourd'hui, après, ils n'ont pas été assimilés, ils sont encore des Juifs. Puis c'est quelque chose, quand on travaillait à Halifax, on allait faire des réparations dans les maisons. Puis on est entré dans une maison, c'était des Juifs. Puis en rentrant dans la porte, la culture juive était là, là. Après 2000 ans, moi, je disais, comme nous autres, on est francophones, on vient du Québec, première génération, mes frères, ils ont des enfants qui ne parlent même pas français. Ils n'ont rien, même mes enfants qui parlent français, ils n'ont pas la culture du Québec, ils ont vécu en dehors. Une génération, puis nous autres, on a travaillé fort pour qu'ils continuent à parler français. Mais imaginez-vous, 2000 ans, là. Qui sont dispersés, puis sont encore des Juifs. Ils ont encore la culture juive. Puis le Seigneur est capable de les ramener. Ça, c'est la puissance de Dieu. Si c'est de la nation juive, le monde ne peut pas se tenir contre eux autres. Puis aujourd'hui, on voit que l'antisémitisme est à la hausse. Puis toutes les nations, la parole de Dieu nous dit que toutes les nations vont se rassembler contre eux. Mais c'est le Seigneur qui va les restaurer. C'est le Seigneur qui va les ramener, puis il n'y a personne qui peut empêcher ça. Puis moi, je ne peux pas voir comment les chrétiens ne peuvent pas croire à un futur pour Israël, le règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ qui va régner sur Israël. Il va venir, puis il va les défendre. Il leur a dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quand il va venir, ils vont voir ses mains percées, son côté percé, puis ils vont pleurer sur lui, ils vont se repentir, puis là, le Seigneur va leur donner une grande gloire. Ça, c'est la parole de Dieu qu'il dit, puis on peut pas nier ça, là. Ils sont dispersés, haïs de toutes les nations, mais la promesse de Dieu envers Abraham va s'accomplir parfaitement par la puissance de Dieu. Puis ça va être à la gloire de Dieu. Tout ça ramène à la gloire de Dieu, parce que c'est à cause de lui, c'est pas à cause des autres, c'est à cause de lui. C'est lui qui les a gardés, c'est lui qui les a préservés à travers tous ces siècles-là. Puis c'est lui qui va aller à la puissance de leur donner leur royaume. Dans Romains 11, 12, il dit, Or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Ça va être un temps glorieux. Dans Actes 15, les versets 16 à 18, il dit, Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Si le Seigneur a parlé, puis qu'il a annoncé ces choses-là, mais faut être certain. On ne peut pas douter de la puissance de Dieu. Il est capable de le faire. Puis le Seigneur va le faire. On sait qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, c'est un peuple éloigné de Dieu. Ils sont dans l'aveuglement. Puis ils sont. Mais il y en a certains qui sont sauvés, comme des païens. Ils font partie de l'Église. Ils ont été sauvés. Mais la prophétie nous dit que durant la tribulation, il va y avoir une grande persécution contre les Juifs. Il va y en avoir les deux tiers qui vont périr. Mais il va y en avoir un tiers qui va rester. Puis ce tiers qui va rester, c'est lui qui va être. Il dit qu'ainsi tout Israël sera sauvé. Mais c'est tous ceux qui vont rester. C'est pour ça que dans Matthieu 24, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis il y a des gens qui pensent que ça, c'est parce qu'il faut persévérer pour être sauvé. Mais c'est pas, ça s'adresse à la nation juive. C'est ceux qui vont survivre. Le tiers qui va survivre la tribulation, ils vont tous être sauvés parce qu'il va y avoir une repentance nationale qui est l'accomplissement du jour des expiations. C'est quand ils vont finalement se repentir, puis reconnaître que leur Dieu, qui a été miséricordieux envers des païens qui étaient désobéissants, puis il leur a fait grâce. Mais ils vont reconnaître que si Dieu a fait grâce à des païens, ils vont reconnaître leur désobéissance, puis ils vont dire, si il a pardonné la désobéissance des païens, il va nous pardonner aussi. Puis ils vont être restaurés. Puis le Seigneur Jésus, ben, c'est lui qui va être leur David, leur roi. Puis il va leur donner leur royaume pendant 1000 ans. Puis ensuite de ça, ben, ça va tomber dans l'éternité. Le Seigneur Jésus, il y a un royaume qui ne finira pas. Puis, ça nous termine le livre de Ruth. C'est vraiment comme une fenêtre dans l'histoire d'Israël pour nous montrer que même dans une faiblesse extrême, qui sans la grâce de Dieu n'aurait pas pu continuer, ça se serait éteint la lignée du Messie, eh bien, Dieu, dans sa grâce, à cause de ses promesses, à cause de ses alliances qu'il a faites, il l'a accompli par sa puissance. Puis toute la gloire revient à lui. C'est ça que quand le Seigneur agit, il fait ces choses-là, même envers nous autres. La gloire lui revient à lui parce que c'est sa grâce, c'est sa bonté, c'est sa puissance qui accomplit toutes ces choses-là. Fait que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs, puis que ça puisse nous encourager. Parce que le Seigneur, Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru, puis je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce qu'il vienne. C'est que là, on vient, attendez un petit peu, on va vous donner la possibilité de pouvoir prendre votre micro. Puis, si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, eh bien, on va passer un peu de temps pour regarder ça.
Gérard, j'ai manqué deux définitions des prénoms, Nacham et Isaïe. S'il te plaît.
Nachon puis Isaïe. Okay. Nachon, c'est enchanteur.
Nacham, chanteur, oui.
Enchanteur, puis Jesse ou Isaïe, c'est se démarquer.
OK, merci.
Okay.
Moi, je m'appelle Fran.
Quand on voit la postérité de Pérès, là, tout ce qui a été engendré, là, ça représente plus que 1000 ans, ça, hein?
Oui, quand même, il y a plusieurs générations, là, ouais. À partir de Peretz, oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que 10, si on met environ, ben, peut-être une génération, ça peut être 30 ans. Mettons que 30 ans. Ils disent qu'une génération, c'est 40 ans, mais ça peut être, mettons, si on le met à 30 ans, ben ça fait 300 ans. C'est pour ça qu'on lit ces histoires-là, puis mais le temps s'écoule, là. Parce qu'ils ont été aussi dans le pays de Moab pendant 10 ans.
Parce qu'il y en a, quand on voit Noé, il a vécu 900 ans.
Ouais.
Eux autres, ils ne vivaient pas aussi vieux,
Pas à ce moment-là, non. Ça,
là.
la durée de vie avait diminué, là. Ouais. Après le déluge, ça a diminué, là.
une petite réflexion sur le verset 9.
OK.
Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui. Ça me faisait penser lorsqu'on a été baptisés. Hein.
Oui.
Je voyais un petit peu que le mariage ici, il était témoin devant les hommes, témoin devant la promesse. Et puis, c'est ainsi, lorsqu'on témoigne à notre baptême, ben, ça me faisait penser un peu à ce verset de Pierre, là, 3:21.
Ouais. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu.
Aussi que ce n'est pas les parents qui ont donné le nom de leur enfant, ce sont les voisines. C'est assez spécial de voir ça. Hein? On voit que ce n'est même pas dans la tradition juive, c'est dans la tradition de Bethléem. Les femmes de Bethléem ont donné le nom de ce fils de Ruth, qui était une Moabite en plus. Ils ont donné le nom de Obed. On voit que le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant, est en contrôle de tout. S'est servi des femmes de Bethléem, les proches de Naomi, pour nommer le nom de ce fils premier-né.
C'est spécial aussi de voir que quand il donnait un nom à quelqu'un, ça avait toujours une signification, une accordance avec la relation avec Dieu. C'est comme Ozias, c'était le roi qui, le Seigneur a marché avec moi. Tu sais, c'est tout un. Il y avait toujours une signification. Aujourd'hui, on appelle les enfants de n'importe quelle sorte de nom. Puis ça n'a aucune signification. C'est pas vraiment en rapport avec une signification. C'est spécial de voir comment le peuple juif, eux autres, ils ont toujours conservé cette façon de faire, là, de.
Pour David, tu as mentionné que son nom, ça veut dire aimant.
Emma,
OK. C'est là que j'ai compris pourquoi David m'aimait, puis il aimait Aurèle puis Fabiola.
Ah, oui, c'est ça. David a vécu à la hauteur de son nom.
Mentionnez aussi, Gérald, que le Seigneur, en allant à la croix, a acquis une gloire davantage, même si c'était quand même c'était toute une vérité, il était vraiment glorieux. Puis, en allant à la croix, il a acquis une gloire supérieure, supérieure. Je pense qu'on voit ça dans Jean chapitre 17 et verset 24. Jean chapitre 17, verset 24, il dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
C'est
Donc,
quoi, Jean?
Jean
et
17.
Jean 17, verset 24. Donc, c'est une gloire que Dieu a donnée au Seigneur Jésus suite à son sacrifice à la croix. Et pour avoir cette gloire, il fallait aussi qu'il prenne la coupe. Et c'est mentionné dans Jean chapitre 18 que c'est la coupe que le Père lui a donnée.
À boire, ouais.
Jean 18, verset 11, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Donc, le Père lui a donné une coupe à boire et lui a donné la gloire qui va avec.
Ouais, c'est ça parce qu'il est devenu un homme, puis en devenant un homme, ben, en étant lui élevé en tant qu'homme dans la gloire, ben, il a élevé toutes les siens là, aussi. Maintenant, il y a un homme glorieux dans la gloire de Dieu. Fait que ça élève, parce qu'avant ça, en Adam, ben, on était tous déchus. Mais là, maintenant, il y a un homme glorieux qui est dans. Puis c'est notre gloire à nous autres aussi. On est un représentant maintenant dans la présence de Dieu qui est glorieux, qui peut être dans la présence de Dieu. Puis il est les prémices, parce que nous aussi, quand on va ressusciter, on va être capable d'être dans la présence de la gloire de Dieu. On ne sera pas capable maintenant, même maintenant, on ne sera pas capable d'être dans la présence de la gloire de Dieu, mais dans ce jour-là, parce qu'on va être transformé, l'œuvre de sanctification que le Seigneur fait en nous autres. Il nous prépare, puis quand il va venir nous chercher, dans un instant, en un clin d'œil, il va terminer cette œuvre-là. On va voir des corps spirituels, des corps glorieux, puis des corps incorruptibles, immortels. Fait qu'il nous amène dans la gloire avec lui.
C'est un peu comme nous. Le Seigneur nous donne la coupe sur la terre avant la gloire d'être avec lui au ciel.
Ouais.
Dans un sens, on peut dire. Des fois, la coupe est plus ou moins difficile à supporter. Des fois, elle est facile. D'autres fois, elle est un peu plus difficile quand tu as de la lie dans le fond de la coupe.
Ouais, c'est ça la vie, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, il dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui.
Oui. Quand il a dit aussi à ses disciples, est-ce que vous pouvez voir la coupe que je vais boire? Les disciples disent, oui, on peut la boire, cette coupe. Mais la majorité ont souffert la martyre avant de mourir.
Ouais.
Je pense à comment
Oui, Charles.
un peu il me rappelle plus de son nom, je sais pas pourquoi j'ai oublié là. Le martyr, Étienne.
Étienne,
Étienne.
oui.
Étienne, juste avant de mourir, il a vu la gloire de Dieu.
Oui, c'est vrai.
Il a vu le Seigneur Jésus-Christ debout à la droite de Dieu.
Ouais.
Puis quand on meurt aussi, bien, on va voir la gloire.
Ouais.
Le Seigneur dit, je
Et
te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
le verset que je voulais lire justement, Monsieur Lapierre, ça
Oui.
dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit,
Rempli du Saint-Esprit, oui.
oui, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. C'est spécial un peu, hein? Il a vu la gloire de Dieu, après ça, Jésus à sa droite. Et
Ouais.
qu'est-ce qui m'impressionne, c'est que Dieu est esprit. Nous, on
Ouais.
ne peut pas le voir, mais la question me pose, comment peut-il faire de voir la gloire de Dieu, Dieu qui est esprit?
Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est. Mais c'est parce que là, on voit avec nos yeux de chair, nous autres, mais. Oh, attendez un petit peu, je vais décliner, j'ai un appel. Mais c'est ça, on voit avec nos yeux de chair, mais dans l'éternité, dans la gloire, il semble que tu vois, là, mais pas de la même façon. Parce que Dieu est esprit, mais il dit que. Il parle de qui entend, qui voit, qui.
L'apôtre Paul aussi, a vu des choses merveilleuses aussi,
Ouais.
avant son ministère.
Ouais.
Mais Jean aussi, quand il a vu le Seigneur dans l'Apocalypse,
Ouais.
il voyait tout le personnage, les reins, tout, toute la gloire qu'il y avait autour, là.
Mais c'est sûr que le Seigneur Jésus il était glorifié, là, il était avec son
Oui.
corps. Le Seigneur Jésus il est monté au ciel avec son corps.
Oui.
C'est ça qu'on appelle l'ascension du Seigneur Jésus. La religion a donné ça à Marie, l'assomption de Marie, mais c'est pas Marie qui est montée au ciel avec son corps. C'est le Seigneur Jésus. Parce qu'on a pris les gloires du Seigneur Jésus pour les donner à Marie, mais Marie était une femme, une servante du Seigneur qui a accompli la tâche que le Seigneur lui avait demandé d'accomplir. Puis elle est bien heureuse, mais elle n'est pas à la hauteur du Seigneur Jésus, là.
Mais on voit Étienne ici, là, pour revenir à Étienne. C'est par l'aide du Saint-Esprit qu'il a vu la gloire de Dieu.
Ouais.
Je suis bien avec lui. Rempli du Saint-Esprit. Donc, on voit l'aide de l'Esprit pour que Étienne voie la gloire de Dieu.
Ouais.
Probablement que s'il n'avait pas eu l'Esprit, il n'aurait jamais vu la gloire de Dieu.
Ouais. Ouais.
D'accord, moi je sais ce que je peux penser ici, là.
Ouais.
Rempli de l'Esprit, il voit la gloire de Dieu en réalité.
Ouais.
On
C'est
voit aussi au verset 14 que les femmes ont prophétisé de quoi qui est très intéressant. À la fin du verset 14, il dit, et dont le nom sera célébré en Israël. Et C'est dans la. Eux autres, ils ne l'ont pas vu tout de suite, mais ils ont prophétisé et on sait que c'est David.
Ouais.
C'est David qui va être prophétisé, qui va être célébré dans tout Israël, parce que c'est lui qui va être délivré, vraiment délivré du joug des Philistins, qui va conquérir, qui va s'établir à Jérusalem.
Ouais.
C'est l'importance de cette naissance. Et c'est vraiment. On voit que le Seigneur, l'Éternel, il a mis la main, là, puis à un moment très, très précis. C'est très, très précis parce qu'on voit la généalogie.
Ouais, c'est ça.
On voit, c'est rare qu'on voit ça dans tous les autres livres, qu'on voit. Esther, on ne voit pas généalogie, mais on le voit dans Ruth. C'est spécial de voir ça.
Ouais. Il met le focus sur une généalogie
Oui, juste une.
à partir de Pérès jusqu'à David. On la voit cette généalogie-là dans Matthieu puis
Oui.
dans Luc. Mais ici, dans ce livre-là, en terminant le livre, il nous met une généalogie. C'est ça qui est la conclusion du livre.
Dans ce livre-là, on voit vraiment la progression, par exemple, de Naomi, qui est arrivée comme Mara dans l'amertume, mais a fini dans la gloire.
Ouais.
Puis ça me fait penser au Seigneur Jésus, qui est venu dans la pauvreté, dans la souffrance, mais il a
Ouais.
fini dans la gloire
Ouais.
suprême que Dieu lui a donnée.
Ouais. Ouais.
Par la résurrection, puis c'est ce qui nous attend.
Ouais, c'est ça, ouais, oui. Ouais. Donc, on est rendu à notre heure. Oui, on a même dépassé de 2 minutes. C'est qu'on va terminer par un mot de prière. Ceux qui doivent partir pourront partir. Puis ceux qui peuvent, s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on peut jaser. Seigneur notre Dieu, on te remercie parce que tu fais des grandes choses, notre Dieu. Puis non seulement tu fais des grandes choses, mais tu te plais à nous les révéler, Seigneur, nous faire connaître ces choses-là pour qu'on puisse voir ta grandeur, qu'on puisse voir ta gloire, Seigneur. Oui, on voit ta gloire à travers ces choses-là, comment tu as pu, d'une façon si merveilleuse, agencer toutes les circonstances et, par ta grâce, donner une postérité ici où, à un point où c'était presque impossible. C'est impossible, Seigneur, mais toi, c'est toi qui l'as rendu possible. Merci, notre Dieu, pour faire des choses comme celle-là, nous en faire part. Puis merci pour le salut que tu nous as accordé, qui était impossible, mais c'est toi qui l'as rendu possible en envoyant ton Fils, le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Merci encore une fois, notre Dieu. Merci pour tous ceux qui sont présents. Bénis chacun, Seigneur. Prends soin aussi de notre sœur Lucie, qui va voir son opération. On te demande de la protéger, de la garder pour que ça puisse bien se passer, puis qu'elle puisse être restaurée. On te remercie pour tout ça, Seigneur, au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.